Simplement, du coup, cet échange est enregistré puisqu'il va être diffusé ensuite sur Radio Dio. Donc c'est pas en direct, mais je ne sais pas quand d'ailleurs. On ne sait pas quand. Bon, il sera diffusé. mais du coup, il faut, si vous voulez intervenir, bien vous signaler pour qu'on puisse vous apporter un micro, sinon ça ne sera pas audible sur l'enregistrement. Voilà.
La fréquence 89.5.
Ah oui, Radio Dio, voilà, radio locale de Saint-Étienne, 89.5. Voilà, c'est ça.
Ouais, juste un tout petit mot en plus de ce que vient de vous expliquer Gaël, pour dire que d'une, on remercie Dio de venir enregistrer. Si les questions du boulot vous passionnent, il y a une émission spéciale mardi soir de Comme un ouragan, toujours sur le 89.5, sur les questions de travail. Voilà, donc je ne me rappelle plus l'heure exacte de l'émission. C'est à 21h. On remercie le remue-ménage pour leur accueil chaleureux et extrêmement mieux organisé que nous. Et on remercie l'une et l'autre qui ont amené une super table de presse au fond, plutôt que de dépenser vos sous dans l'alcool, vous feriez mieux d'aller vous instruire.
Et donc ce soir, on accueille Lise Gagnard. Merci beaucoup d'être avec nous. Moi, j'essaye de vous présenter en quelques mots avant d'attaquer la discussion. Du coup, Lise Gagnard, vous êtes psychologue de formation. Vous avez aussi été chercheuse. Donc chercheuse notamment, sans doute que j'oublie des choses, mais dans la lignée un peu des recherches autour du travail et de la psychodynamique du travail, qui est un champ d'études notamment ouvert par un chercheur qui s'appelait Christophe Dejour, et qui s'appelle toujours Christophe Dejour, et qui était psychanalyste et qui a ouvert tout un champ d'études avec sans doute plein d'autres personnes sur un peu les impacts de l'organisation du travail et des rapports sociaux au travail sur la santé des travailleurs et travailleuses, qui a ouvert plein voilà, de champs de recherche autour de ces questions-là. Vous, Lise Guénière, vous avez notamment travaillé sur la psychologisation des rapports de travail et des investissements au travail, et surtout comment la psychologisation et aussi un peu pathologisation des souffrances au travail viennent masquer ou nous confisquer la dimension un peu politique de ces réalités-là. Du coup, voilà, c'est aussi entre autres pour ça qu'on vous invite. Vous avez notamment publié un livre qui est un ensemble de chroniques sur des récits de vie et des récits de situations de souffrance au travail, qui s'appelle Chronique du travail aliéné, aux éditions Dune. Voilà. Et par ailleurs, vous êtes aussi donc psychologue, psychologue clinicienne, psychanalyste. Je crois que vous avez travaillé dans un certain nombre d'institutions, notamment, il me semble, la clinique de la Borde. Et c'est aussi quelque chose qu'on voulait présenter un petit peu, puisque vous êtes, on va dire, compagnonne de route du courant de la psychothérapie institutionnelle, qui, en quelques mots, est un courant qui est né après-guerre de psychiatrie, qui a participé de la destruction et de l'ouverture des asiles qui existaient voilà, tout au long du XXe siècle, notamment voilà, en France, et qui a donné naissance à un courant de pratique de la psychiatrie. Voilà, assez émancipateur et qui a eu pour vocation et qui a encore, par les acteurs actrices qui le font vivre aujourd'hui, pour vocation de garder liée la question du soin et des pratiques soignantes et de la politique et de la question politique. Et voilà, il est coutume, par exemple, une présentation rapide qui revient souvent, c'est de dire que la psychothérapie institutionnelle fonctionnait sur deux jambes. Celle du marxisme et celle de la psychanalyse, celle de Freud. Et du coup, il me semblait que ça, voilà, ça pouvait aussi un peu introduire au propos de ce soir, de replacer votre démarche dans celle du courant de psychothérapie institutionnelle qui essaye d'avancer de front dans les questions soignantes avec les outils de la politique, avec une pensée politique. Voilà. Vous étiez hier dans la banlieue de Saint-Étienne, à Lyon. Et vous êtes ce soir avec nous et on est ravis.
Alors, pour introduire un petit peu la soirée, nous avons choisi de vous proposer en lecture un extrait que Lise cite dans son livre Apparaître, « Le travail n'est pas une affaire personnelle », et c'est un extrait de George Orwell, « Le quai de Vigan ». En voyant les mineurs au travail, on se rend compte à quel point peuvent être éloignés les univers dans lesquels vivent les gens. Au fond, là où on extrait le charbon, c'est une sorte de monde à part qu'on peut aisément ignorer sa vie durant. Il est probable que la plupart des gens préféreraient ne jamais en entendre parler. Pourtant, c'est la contrepartie obligée de notre monde d'en haut. Pour qu'Hitler puisse marcher au pas de loi, pour que le pape puisse dénoncer le péril bolchevique, pour que les foules puissent continuer à assister aux matchs de cricket, pour que les poètes délicats puissent continuer à fixer leur nombril, il faut que le charbon soit là. Mais généralement, nous ne sommes pas conscients de cela. Nous savons tous que le charbon est primordial. Mais nous ne pensons jamais, ou presque jamais, à tout ce qu'implique l'extraction de ce charbon. Quels que soient les événements qui se déroulent au jour, il faut que l'abattage et le pelletage se poursuivent sans trêve ni répit.
Vous avez choisi cet extrait pour montrer l'occultation du travail. Et du coup, peut-être que notre première question, c'est qu'est-ce qui fait qu'en tant que psychanalyste, psychiste, vous n'êtes pas resté aveugle à cette question-là, des rapports d'exploitation, des inégalités de salaire, de la production des biens et des services. Voilà, ce serait peut-être ça notre première question.
J'en sais rien, mais je sais pas exactement, c'est jamais exactement ce qu'on fait en fait. Moi, j'ai pas travaillé sur le travail tout de suite. J'ai commencé à travailler comme femme de ménage à l'hôpital. Ensuite, j'ai fait des études d'infirmière. Ensuite, j'ai travaillé un an comme infirmière, j'y arrivais pas. Donc je suis partie travailler donc en psychothérapie institutionnelle où j'étais beaucoup plus à l'aise. Je suis partie travailler à la clinique de la Chenelle, la clinique de la Borde. Et c'est dans ce courant-là que j'ai repris des études à l'école d'études sciences sociales et tout ça. Et puis qu'après j'ai passé un diplôme de psycho et ensuite une thèse à propos des analyses de pratique. Au fond, c'est la psychothérapie institutionnelle qui... j'avais des parents militants, voilà. Et donc la question, nous, dans notre famille, les parents disaient, on veut pas que vous fassiez d'études parce que faut pas oublier d'où vous venez, quoi. Et donc on était encouragés à ne pas faire d'études, c'est pas fréquent. On n'a pas fait. Et du coup, moi, j'en ai fait après, mais que dans le travail lui-même, c'est-à-dire dans le décours du travail en psychothérapie institutionnelle, puisque là, si on veut aller très vite, la psychothérapie institutionnelle suppose qu'il n'y a pas une maladie mentale qui va être traitée par... qui serait implantée sur quelqu'un et qui serait traitée par une certaine molécule ou un certain traitement. Mais au contraire, la psychothérapie institutionnelle reprend cette évidence commune qui est les événements de la vie déstabilisent, les événements de la vie rendent malade. Si dans ce cas, les événements de la vie peuvent soigner, peuvent intervenir sur le déroulement de la douleur, des difficultés, etc. On ne nie pas qu'il existe des maladies importantes qui invalident beaucoup, qui rendent beaucoup plus difficile la présence au monde et les relations sociales. Mais pour autant, ce courant de psychiatrie mise sur des conditions d'hospitalisation, des conditions de soins, des conditions de suivi même en ville, qui sont des conditions politiques. Bon, vous avez aussi, si vous voulez aller par là, tout le courant Bonafé, enfin tout le courant Chéniaud, etc., enfin de la psychiatrie publique. Enfin bon, c'est pas pour ça qu'on est là. Donc, je veux dire, pourquoi c'est pour ça Je pense que j'ai commencé à travailler avec des patients, ce que je ne réussissais pas à faire comme infirmière de services généraux en chirurgie. Je ne pouvais pas, enfin c'est vieux, hein, et je ne pouvais pas faire ce qu'on me demandait. C'était pas possible. Je voulais pas faire ça. Et donc je suis partie chez les marginaux de la Borde, et là, j'étais à l'aise. Et la question du travail, de l'aliénation sociale, l'aliénation mentale, de ce lien, ça me plaisait. Et du coup, j'ai recommencé des études et j'en ai fait des quantités que je ne sais même plus. Et là, c'est la pratique que j'ai eue après la Borde a toujours été... Pour moi, de par mon éducation de parents militants et par l'expérience de la Borde, la question du travail, la question de la position sociale était le fondement, au fond, de la personnalité. Il n'était pas question pour moi, bien que je sois freudienne et même lacanienne, il n'était pas question pour moi d'oublier la question des circonstances de la vie. Houry disait toujours, il disait, oh oui, alors des psychanalystes, maintenant, il y en a dans les hôpitaux psychiatriques. Alors, ils ne savent pas si les gens sont en cellule ou pas. Est-ce qu'on sort les gens des cellules pour les emmener à leur séance? Il disait, ça, c'est de la merde. Et donc, y a des, pour la psychothérapie institutionnelle, il y a des conditions sociales, même du soin, des lieux de soins.
Comment vous définiriez-vous le travail?
Oui, voilà, ben ça c'est important parce qu'en fait, quand on dit travail, il y a 15 définitions, il faut s'entendre sur une définition pour se tenir ensemble sur la même, sinon on ne comprend rien. Et donc moi, je n'utilise qu'une, c'est celle de Claude Weil, qui était vraiment inscrite assez tard, en 70-80. Il dit... Et c'est celle-là que je vais utiliser toute la soirée, d'abord tout le temps, mais c'est toute production de services ou de biens entraînant des liens entre des personnes. Donc tout ce qu'on peut produire comme service ou comme objet ou comme, qui entraîne des liens entre des personnes. Si bien que... faire la vaisselle le soir à la maison, c'est aussi du travail, le soir ou le matin. Enfin, faire un dernier tour dans la maison, préparer les affaires pour tout le monde, penser entre deux analysants, penser à ce qu'on mange demain et ce qu'on doit faire comme course. Imaginer, préparer le travail de quelqu'un d'autre, c'est au moins autant du travail que ce qui est convenu d'appeler le travail, qui est le travail salarié ou le travail commandé ou le travail ubérisé, si on veut, pour être moderne. Mais le travail avec une contrepartie financière. De toute façon, tout le monde sait, par exemple, que les épouses d'artisans, les épouses d'hommes qui travaillent, on dit ça, hein, qu'est-ce qu'ils font tes parents? Ben, mon papa, il fait ça, et puis ma maman, elle ne travaille pas. Vous êtes combien d'enfants? 6. Ah, ben, elle doit travailler un petit peu quand même. Et quand on entend aussi les hommes politiques dire, ben, dans les cités populaires, il n'y a personne qui bosse. Bah, ils ont tous l'air d'avoir des habits propres, et puis d'être bien nourris, et puis d'aller à l'école le matin, et puis tout ça. Non, bébé, quelqu'un qui fait ça. Mais ça échappe à la valeur marchande, à la valeur capitaliste. Donc voilà. Pour autant, le capital est bien inquiet quand il n'y a pas moyen d'obtenir de la main-d'œuvre. Hein, quand. Si on voulait reprendre l'histoire des jardins ouvriers, hein, c'était pour fixer les ouvriers là. Enfin, on les faisait jardiner pour les fixer là, parce que sinon, les ouvriers, on ne peut pas les tenir. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que si on ne tient pas ensemble le travail pour autrui, qui est effectué en permanence, si on ne tient pas avec le travail qui est habituellement visible, on perd. Et on perd en particulier le travail invisible, alors ce que dit Orwell, hein, le travail des mineurs. Mais en même temps, dès qu'on dit les mineurs, tout le monde dit « ouais, ils bossent ». Mais il y a plein de gens qui ont des travails même monétisés. Les aides à domicile, les ABS, tous ces gens-là. Bon, c'est quand même pas un vrai travail, quoi. Mais en attendant, c'est au plus près des besoins fondamentaux. Et plus on va être près des besoins fondamentaux, plus le travail va s'invisibiliser. Et on refoule notre vulnérabilité, on refoule le fait qu'on n'est pas du tout autonome, qu'on ne sait rien faire, en fait, à vrai dire, et qu'on ne s'en aperçoit pas. C'est-à-dire qu'on a des couches jusqu'à 2-3 ans, puis après, beaucoup plus tard. Mais entre-temps, on ne pisse pas trop dans notre culotte, on ne se rappelle plus. Sauf quand on est opéré, quand on est malade, quand on se casse les deux pieds, ben, on va être bien embêté pour prendre sa douche. Hein. Et tout ce côté-là, qu'on ne peut pas s'occuper soi-même de son corps et d'un corps en gloire, d'un corps autonome, d'un corps qui saute, d'un corps machin... que personne n'a, hein, mais enfin qu'on croit qu'on a. Voilà, tout ce côté-là va être invisibilisé. Tout ce qui est en lien avec ce... Et d'ailleurs, la grande démission en France, ça commence par ce personnel-là. Bon, ça, on en parlera peut-être à un autre moment. Mais c'est la définition que je tiens à affirmer tout le temps, c'est celle de toute production de biens ou de services entraînant des liens entre des personnes.
On a aussi lu dans certains de vos articles, vous relatiez des consultations dans votre cabinet, dans un cabinet, je ne sais pas si vous l'avez toujours. On voulait savoir un peu qui est-ce que vous avez reçu ou qui est-ce que vous recevez dans votre cabinet. Et à quel moment de la vie de ces travailleurs-là, dans ce sens-là, ils viennent vous consulter
Ouais, ça, c'est pas très intéressant. Je vais aller vite. C'est parce que ça n'existe plus. C'est pour ça que c'est... En fait, les cas qui se présentent, enfin, que j'ai relaté dans Chronique du travail aliéné, c'était une chronique qu'on m'avait demandé dans Alternative libertaire. J'avais discuté avec le rédacteur en chef de l'époque, qui était un truc tournant, mais il y a longtemps, hein, il y a 20 ans de ça. Hein. C'était la haute période, pour ceux qui sont un peu plus âgés, du harcèlement moral. Et maintenant, c'est souffrance au travail, burn-out. On dit burn-out, c'est pas mal ça. Ça n'a pas de sens, hein, de dire burn-out, mais enfin bon, je ne vais pas s'étendre. Mais en tout cas, c'est une description. On est, si vous voulez, on est dans une époque à ce moment-là d'intensification du travail qui commence à craquer. On ferme les EDF, on sous-traite tout chez EDF. On va bientôt vendre France Télécom à Orange. On connaît les dégâts afférents. C'est terminé. On baisse toutes les campagnes électorales. C'est on va baisser le nombre de fonctionnaires, etc. Donc, on est dans une période d'intensification des tâches et les Français ne s'en aperçoivent pas. C'est en même temps que la financiarisation de l'économie. Et donc, les gens continuent à penser que s'ils travaillent, ils auront des sous. Et si la boîte dans laquelle ils travaillent gagne des sous, eh ben, elle restera ouverte. Ce qui est totalement faux. Ce sont des flux financiers qui n'ont rien à voir avec la rentabilité. Vous savez ça mieux que moi. Mais c'est le début. Et le début de ça, les gens n'ont pas l'habitude de penser la stabilité de leur existence fondée sur des salaires et sur un certain mérite au travail, ils n'ont pas l'habitude de le penser de manière financière. Et d'ailleurs, encore maintenant. Mais parce qu'ils préféreraient rester au fonctionnement économique. Mais en fait, non. Et toute la fonction publique est envahie de cabinets. Parce que là, je me dis, bon, pourquoi ? Pour les élections, tout le monde s'aperçoit qu'il y a des consultants. Mais en fait, ça fait 20 ans que ça dure. C'est vrai qu'il exagère un peu, Coco. Mais bon. Et c'est plus voyant, c'est plus cynique. Donc, c'est plus... Voilà, il ne se cache pas. Donc, bon. Mais c'est le début de l'arrivée des consultants, des gens qui arrivent de n'importe où, qui ne connaissent rien à rien et qui, par contre, ils savent très bien dégraisser le mammouth, comme disait Claude Allègre, l'élégant Claude Allègre. Et donc, c'est cette période-là où les gens deviennent dingues. À la place de faire la révolution, c'est dommage, elle aurait déjà 20 ans. Et donc, du coup, ce qui est proposé, c'est quelque chose d'une psychologisation. C'est-à-dire que y a des pervers narcissiques qui vous persécutent, quoi. Donc, aussitôt, s'il y a des pervers narcissiques, tout ça, et si vous êtes harcelé, moral, donc il faut un psy. Et moi, à ce moment-là, j'écris tout ce que je peux. D'ailleurs, Yves Clos aussi écrivait ça à ce moment-là. Bon, je n'étais pas toute seule, hein, mais enfin, on n'était pas beaucoup quand même. Parce que c'est une manne, hein, au niveau pognon. Bon. Et donc, pour les psychologues du travail, pour tout le monde, hein, c'est en or. C'est l'époque en or. Personne ne savait qu'il y avait des psychologues du travail avant 2000. Hein. Tout le monde s'en foutait des psychologues du travail. Ils faisaient un peu de recrutement, un peu de machin, mais ils s'en foutaient complètement. Et donc, ils étaient au chômage, les psychologues du travail. Mais alors là, ça y va. Donc, en fait, ça tombe à pic. Et on va tous s'enfiler là-dedans, syndicats compris. Tout le monde demande des points écoute, on ne veut pas souffrir, on veut être bien traité, on veut être que ce soit gentil, tout ça. Le mec de France Télécom, là, au procès, là, le directeur, il a dit... parce que vous croyez qu'on peut virer 22 000 personnes gentiment. Et c'est vrai. Enfin, c'est le seul qui a dit quelque chose de sensé pendant ce truc. Voilà. Non. Voilà. Du sale boulot. Le sale boulot se fait salement. L'intensification du travail... avec l'arnaque des 35 heures, où on a la même tâche, mais en 35 heures, c'est super. Et du coup, on leur a piqué toutes les pauses, tout. Les vestiaires, le temps de vestiaire, le temps de pause, tout ça. Plus rien, machin. Et puis un peu moins de pognon, parce que quand même, vous travaillez quand même moins d'heures. Et vous faites la même tâche. Donc, tout bénef, quoi. Donc, tout le monde commence à devenir dingue de charge. Et pas seulement de charge, mais d'assister à ce qui se passe pour virer les gens. Pour sous-traiter les tâches, pour tout ça. Les gens dans les centrales nucléaires commencent à avoir peur parce que c'est plus eux qui s'occupent de la sécurité et donc ils ont peur, voilà. Enfin, tout le monde commence à... Voilà. Et ça fait 22 ans que ça dure, 20 ans que ça dure, 20 même 24 ans que ça dure. Et la financiarisation, les consultants, et voilà. Et à la place de saisir la question de l'augmentation de l'exploitation, on présente la question de la psychologie, c'est-à-dire que vous êtes quand même, vous n'êtes pas très fort quand même, parce que là, vous pourriez être beaucoup plus fort. Donc, on vous met des coachs. Alors là, les psys du travail sont hyper contents. Alors, coach, c'est en or, vous gagnez une blinde, vous faites trois fois rien. Enfin. Et donc, tout le monde est content. C'est vrai que tout le monde est content. Les syndicats militent pour obtenir des numéros verts. Et donc... on m'envoie les cas de gens qui, soit qu'on fait des tentatives de suicide, soit qu'on fait des tentatives de meurtre. Et au travail, sur le lieu de travail. Et donc, je les prends. Et je les soigne avec deux séances de 2 heures. Et les gens, ils arrivent dans des états d'apocalypse et ils ressortent. Et normalement, enfin, c'est toujours arrivé, ils restent travailler. Et ils restent travailler parce qu'ils vont travailler autrement. Et sans les illusions, sans la demande de reconnaissance, parce qu'ils sont là à demander la reconnaissance. Je voudrais une reconnaissance de la hiérarchie. Alors je dis, bah, Vous venez de me dire que c'est une bande de salopards et vous voudriez qu'ils vous trouvent bien. Si vous voulez qu'ils vous trouvent bien, c'est pas comme, enfin, faut pas travailler comme ça. Faut faire des saloperies comme eux, quoi. Donc non, mais moi j'aime mon métier. Ah bah oui, bah non. Alors la reconnaissance, ça sera pour une autre fois, parce que voilà, on peut pas avoir tout. Et donc du coup, ça va vite, hein. Dès qu'on se met à parler normalement avec quelqu'un. Vraiment, pas de, je sais pas quoi, là, en vrai, quoi, faire une analyse politique de la situation, et pas politique au sens, ah, mais vous êtes exploité, ma chère, parce que ça se faisait, ça aussi. Il y avait une psychiatre à Grenoble, d'ailleurs, j'oublie son nom tout de suite, tant mieux, la pauvre, et elle disait, moi, je leur dis à mes patients, je leur dis, tant qu'on sera dans un système capitaliste, vous guérirez pas. Ça fait long, ça fait, c'est long, quoi. On se dit, ah bah, ouais, ça va pas être tout de suite. Et donc, c'est pas possible non plus, ça. Enfin, je veux dire, c'est pas une analyse politique ex cathedra. C'est voilà, comment vous faites, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites comme travail, voilà. Donc voilà, c'est comme ça, et donc je recevais cela. Et ça énervait tout le monde parce qu'ils étaient... on n'en entendait plus parler. Ils disparaissaient parce que c'était les médecins du travail. Parce que moi, je ne voulais pas qu'ils payent les gens. Je disais, oh non, mais attends, c'est double peine. Ils deviennent, vous les rendez dingues et en plus de ça, il faut qu'ils payent pour venir chez moi. Alors là, sûrement pas. Donc, il fallait que ce soit le service de médecine du travail qui paye les soins. Alors, ils étaient contents parce qu'il y avait 2 fois 2 heures. Mais en même temps, ça les énervait parce que je leur disais, voyez, c'est vous qui auriez dû le faire. Voilà, c'est décourageant. Mais il faut demander, qu'est-ce que vous faites ? Mais il est ouvrier. Ah oui, mais ouvrier... il fait quoi ? Et ben, je ne sais pas trop, je crois que c'est la métallurgie. Oui, alors, c'est en 2-8, 3-8, c'est... Puis la métallurgie, il soude, ils savent pas. Bon, ben, on verra la prochaine fois. Et donc, voilà, ils savent pas. Ouvrier, ça suffit. Ou, ben, ils travaillent dans un bureau. Ah, oh, ben, on est content. Et voilà. Et donc, en fait, il faut aller loin, quoi. Il faut rentrer dans tout le vécu. Puis c'est intéressant, j'adore ça.
Alors du coup, aujourd'hui ou avant, on pourrait dire, mais on pourrait dire toujours aujourd'hui, comment la souffrance ou la douleur, parce que j'ai entendu que vous parliez plutôt de douleur tout à l'heure, comment elle se présente, cette douleur, et comment les gens souffrent au travail ?
Bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais ça prend des formes suivant les époques, suivant ça prend des noms différents, des formes différentes. Les noms, au départ, c'était harcèlement. Il y a eu le mobbing, mais alors là, tout le monde s'en foutait, c'était au début des années 90, ça n'a pas pris du tout. Toute l'Europe du Nord a fait des lois anti-mobbing, et ça a marché. Ça a bien marché. Ils sont pas du... Parce que c'est français, hein, ce truc-là. La souffrance au travail, là, c'est français. Alors que c'est pas les Français qui sont le plus en difficulté, hein, mais... Et puis, en plus, vous ne trouverez pas une femme de ménage sans papier qui va se plaindre de burn-out. Hein. C'est vraiment... Le burn-out, c'est tout un système sociologique. Bon, en tout cas, le mobbing, ça n'a pas pris en France. Tout le monde dit, oh, ça va. Et puis, après, c'était le harcèlement moral avec le pervers narcissique. Ça, c'est... Eric Goyen s'est fait vraiment des fortunes avec son livre sur le harcèlement moral, où il y avait 4 pages sur le travail, et le reste, c'était votre mari, votre père, votre frère, qui était pervers narcissique. Et comment s'en débarrasser ? Enfin, pas s'en débarrasser complètement, mais comment arrêter le lien pervers ? Et donc, voilà. Et puis, il y avait la description du pervers. On l'a encore trouvé il n'y a pas longtemps, la description du pervers dans des livres, mais à la gare. On trouve ça à la gare. Et au kiosque à journaux. Mais après, il y a eu la souffrance au travail en tant que telle, avec la maltraitance. La maltraitance est arrivée. On est maltraité. C'est pas on fait un travail de merde avec pas de moyens pour le faire, ou bien la nature de notre travail a changé, on nous demande beaucoup de mentir, de faire autre chose que ce qui est annoncé. Voilà, on dit pas ça, on dit je suis maltraitée. Voilà. Donc la maltraitance, ça a commencé par la maltraitance des patients, après c'était la maltraitance du personnel en général, et on dit maltraitance à tout bout de champ. On dit maltraitance, on dit burn-out maintenant, usure. Alors usure, c'est pas marrant parce que ça veut dire qu'après on peut pas réparer, hein, y a pas de reprise. Donc ça veut dire... Et donc, tous ces gens-là sont partis en arrêt maladie psychiatrique, ou pas d'ailleurs, ou pas psychiatrique, mais, et puis invalidité, enfin, ouais, invalidité après. Donc, ça se présente comme ça. Et c'est une des manières de se débarrasser du personnel. Ah ben, il y a la loi, oui, bien sûr, il y a la première loi sur le harcèlement moral. Et puis la loi de 2008, qui pour les syndicalistes est vécue comme une grande victoire, alors même que justement elle pousse dehors du travail les gens qui sont supposés souffrir. Mais ils sont en inaptitude et vous avez des amphithéâtres entiers de médecins du travail qui disent « Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on les mette en inaptitude ?» Je dis bah, « Parce qu'après ils n'ont plus de travail, c'est ça en fait. Ouais. » Les médecins du travail, ils gardent leur travail. Hein. Et alors, voilà, donc ils n'ont plus les moyens, en fait, de vivre, parce qu'une allocation adulte handicapé, ce n'est pas beaucoup. Et pour des gens qui ont vraiment des grosses difficultés à travailler, ça peut être, enfin, c'est de toute façon une aide, mais ça peut bon, avoir un sens pour quelqu'un qui, deux mois avant, était encore au travail. Je trouve que c'est un peu... Voilà. Et maintenant, c'est burn-out. Personne ne sait ce que ça veut dire.
C'est une question perfide de sociologue. On se demandait comment vous en venez, alors que vous êtes quand même psychologue, clinicienne, chercheuse de formation, peut-être pas initiale, mais en tout cas, il y a déjà quelques heures de vol au comptoir. Et comment est-ce que vous en venez dans vos déclarations publiques, dans certains médias, etc., à vraiment... presque donner l'impression de réfuter les arguments de la psychologie ou votre discipline d'origine quand vous parlez justement du travail. Comment ce tournant il s'est opéré pour vous, ce qui est votre cœur de métier quand même aussi d'une manière, et un travail auquel vous tenez probablement.
Oui, moi je me serais bien passée de ça. Ma spécialité c'est pas ça. Ma spécialité c'est d'enseigner que le travail est central dans la construction de la personnalité et que le travail est central dans l'équilibre à peu près dans l'existence. Le travail, mais pas seulement l'emploi, le travail comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire le travail des mères pour que les enfants vivent, le travail des grands-mères pour que les mères respirent, le travail des dames de la crèche, le travail de... Voilà, ça c'est central. On est tous formés du travail des adultes qui nous ont permis de vivre. On n'a pas l'air malin quand on est, on ne sait rien faire. On ne peut rien faire. On dépend du travail de nombreuses personnes, quelquefois pas très nombreuses d'ailleurs, malheureusement, mais on dépend jusque tard du travail concerté. Et puis des fabricants de couches, des fabricants de lait, enfin de, je sais pas moi, des vaches. On est très dépendant. Et cette conscience là que moi j'ai toujours eue dans mon travail de psychanalyste, de faire questionner les conditions de son enfance, les conditions de travail de tous. Il y a plein d'articles qui sont assez beaux sur les enfants des personnes qui font les 3-8. Si la mère ou le père, enfin, c'est souvent le père qui faisait les 3-8, eh bien, les enfants, ils ont appris à se taire, mais à se taire complètement. C'est-à-dire, il ne fallait pas sauter. Il fallait pas... Voilà, il fallait que le père se... soit en mesure de gagner les sous. Donc il fallait pas sauter, pas crier, pas rire, pas voilà. Si pendant tout le temps que les pères dormaient, ils dormaient dans la journée. Donc voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de relier la question centrale, non seulement du travail qui nous a permis de vivre, qui nous permet toujours de vivre, hein, le travail des autres nous permet de vivre tous. Voilà, on n'est pas indépendants les uns des autres. Là, tout le monde, on a mangé des choses que les gens avaient fabriquées, il y avait des légumes qui avaient poussé, on est là dans un bar magnifique avec des gens qui travaillent là sans arrêt. Enfin, je veux dire, on est, voilà. C'est ça qui compte pour moi. Je suis lacanienne, mais bête, quoi, le reste du temps, comme tout le monde. Mais dans le décours de la cure aussi, je tiens compte du qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que ça fait, et qu'est-ce que ça faisait, quelle position, et votre mère, qu'est-ce qu'elle faisait, ben, elle ne travaillait pas. Bon, ben ça, quand même, je ne les rate pas, quoi. Ou bien des jeunes femmes qui arrivent, je ne sais pas ce que j'ai, j'aime plus mon mari, j'aime plus mes enfants, ils m'énervent tous. Alors qu'ils sont tous gentils, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout pour être heureuse, qu'est-ce que j'ai, j'ai une dépression. Et on dit, bah, qu'est-ce que vous faites comme travail ? Et puis voilà. Et puis en fait, on s'aperçoit que la nana, elle a 35 ans, elle travaille, je ne sais pas moi, 75 heures par semaine. Et puis son mec, il dit, ouais, moi j'ai du mal. Alors je me repose, puis je vais au sport. Et on a fait les 35 heures, là. Hommes, femmes, les 5 heures, là. Ben, les femmes, elles sont bêtes. Elles font... Elles prennent de l'avance. Elles rangent pour que ça soit bien pour le week-end. C'est sympa. Et puis l'autre, il va au sport. Et donc, c'est bien. Hein, c'est bien parce que c'est bon pour sa santé. C'est bien parce que... Voilà. Et puis, il a fait les courses quand même en rentrant du sport. Avec la liste, hein, mais bon. Et du coup, on arrête, on dit, bon, on va arrêter le coup de la dépression, on va. Et voilà. Et donc, ça, c'est mon travail. Maintenant, je ne me rappelle plus de la question. Pourquoi j'ai dit, il ne faut pas faire de la psychologie quand c'est de l'exploitation ? Eh ben, c'est exactement ça, par exemple, la nana là, qui arrive déprimée. Voilà. Elle n'est pas déprimée, en fait. Elle dit, j'ai tout pour être heureuse. Je dis, oui, enfin, bon... Je sais pas si vous l'avez vu, ce PowerPoint, où c'est une nana qui dit... qui regarde la télé avec son mec, comme ça, et puis elle dit, bon, bah, je vais me coucher, là, parce que je suis trop fatiguée. Et donc, le mec, il dit, oh, comme tu veux. Et puis, en fait, elle va se coucher, mais elle passe dans... Elle voit que demain, c'est tel jour et que c'est le judo pour le gosse. Donc, elle prépare en vitesse le truc de judo et tout ça. Puis, hop, elle passe dans la cuisine. Il y a des trucs qui restent. Alors, donc, elle range un peu. Puis, comme du coup, elle met le petit-déj sur la table. Et puis ensuite, elle s'aperçoit qu'il y a du linge dans la machine à étendre, donc hop, elle étend. Et puis ensuite, je sais pas quoi, puis elle prépare quand même ses affaires de travail pour le lendemain. Et puis les habits de son mari. Et puis après, en fait, le mari, il arrive. Il dit, bah, t'es encore là? Je croyais que t'allais te coucher. Et je croyais que t'étais fatiguée, il lui dit. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'était un PowerPoint que j'envoyais par mail aux jeunes femmes déprimées. Et ça faisait un peu des histoires, mais elles ne prenaient pas de médicaments. Voilà. Et les cures étaient très courtes. Voilà. Et donc, c'est ça, en fait, que je voulais dire.
Et la transition est plutôt bien trouvée. On voulait aussi vous entendre sur ce que vous observiez comme le plus significatif, comme différence entre groupes sociaux, que ce soit de genre, que ce soit des différences raciales, des différences de classe, dans l'expérience du travail, dans la manière dont les gens souffrent au travail et dont ils se heurtent à cette activité-là.
Ben, déjà, on ne peut pas le savoir, parce que il y a peu de populations surveillées. Il faut savoir que toutes les publics, vous voyez, c'est que dans les grands groupes. En fait, on a les accidents du travail, mais on n'a pas les burn-out, les machins, etc. On a les stats de la CNAV, de la CEPAM, mais on n'a pas grand-chose d'analytique. Voilà, on sait que les arrêts de travail pour dépression augmentent, que les AH, les allocations adultes handicapés, les invalidités sont psychiatriques, en grande majorité maintenant, en évolution. On ne sait pas grand-chose de manière certaine. Et non seulement on ne sait pas grand-chose, mais on s'applique à ne rien en savoir. Il n'y a rien, en fait, de chiffres convenables. C'est des enquêtes mal foutues. Voilà. On n'arrive pas à savoir les liens. Il y en a des chiffres qui circulent, mais ils sont tous louches. Enfin, ils sont tous... ils prouvent ce que la personne veut dire. Et ils ne sont pas tous les mêmes, du coup. Bon, maintenant, ce qu'on sait, c'est très bien... par contre, c'est la santé physique des gens qui sont surveillés, donc pas les sans-papiers, pas les ubérisés, pas les indépendants. Mais enfin, quand même, on connaît la situation physique de 80%, disons, de la population. Donc là, c'est très simple. Il y a 10 ans d'espérance de vie d'écart entre un ouvrier employé et un cadre et 4 sup. Il y a 10 ans d'espérance de vie en bonne santé. Il y a des maladies cardiovasculaires et des cancers, mais c'est, je sais pas, c'est 50 fois plus chez les ouvriers employés, etc. Et ce qui est curieux, c'est que les gens la plus mauvaise santé en France, c'est les employés. Les employés, c'est donc les bureaux, mais aussi les services à la personne. Ça, c'est des employés. Et donc, c'est eux qui sont en plus mauvaise santé. Et on a, par exemple, aussi beaucoup de troubles musculosquelettiques avec des destructions d'articulations très, très tôt. Hein. Ils ont vu des destructions d'articulations avant. C'était à 50 ans qu'on envoyait les gens faire une prothèse d'épaule. Maintenant, c'est à 30 ans.
Oui, déjà, merci beaucoup à tout le monde pour l'organisation de la soirée et puis pour ce que vous racontez. Je vais essayer de faire un truc un peu clair dans ma question. C'est pas dit que j'y arrive. Si, moi, j'aimerais bien... pour situer un peu, je travaille aussi, je suis soignante, je reçois des personnes. Moi, j'aurais besoin un peu plus de précision clinique sur la pratique. Dans le sens où moi je trouve ça passionnant ce que vous racontez, mais je trouve ça moi j'ai 35 ans par exemple et du coup j'ai pas du tout été dans les années 70 avec la psychothérapie institutionnelle etc, et que du coup tout ce champ clinique s'appuyer sur le marxisme, la psychanalyse pour construire une pensée collective, etc. C'est des choses qui ont complètement disparu dans nos pratiques et qu'on est de plus en plus démunis pour réfléchir à comment est-ce qu'on accueille les personnes qu'on reçoit qui sont dans des situations d'extrême précarité et de souffrance dans tous les sens du terme, dans la domination de ce monde extrêmement violent actuellement. Et que moi j'aurais besoin, je trouve ça vraiment passionnant ce que vous dites sur je prends le temps de faire raconter les gens qu'est-ce qu'ils vivent, c'est quoi la situation concrète, etc. Mais j'aimerais bien que cliniquement vous racontiez un petit peu qu'est-ce que ça produit comme effet. Parce que moi par exemple, c'est des choses qui en consultation où j'ai du mal à trouver justement comment est-ce qu'on amène les gens à parler des situations d'exploitation qu'ils vivent. Sans poser nos propres mots, comme vous disiez, on n'a pas envie d'être comme la psychiatre de Grenoble qui dit « Ah, bah c'est le capitalisme, ah, bah c'est le racisme, bon monsieur, c'est pas de chance. » C'est justement, comment est-ce qu'on fait pour soutenir, être dans, renvoyer aux personnes, bien sûr, vous êtes digne, bien sûr, vous avez le droit de vivre, bien sûr, etc., sans nommer à la place les rapports d'exploitation, mais en trouvant enfin, cliniquement, comment concrètement ça se passe tout ça, quoi. Un peu plus. Alors, enfin, moi,
je... Je pense que la vie du psy, on en a rien à foutre, à vrai dire. Hein. C'est pas ça qui... Enfin, je veux dire, c'est pas des choses qu'il faut qu'ils comprennent. Bon, tout à l'heure, j'ai raconté l'histoire de la HEC qui se transforme en déléguée CGT, bon, parce qu'elle est rigolote. Elle passe bien. Non. Mais c'est pas toujours le cas. Il y a plein de gens qui restent... Enfin, moi, j'ai soigné des salopards qui sont restés des salopards. Et j'ai soigné des gens qui travaillaient dans des usines d'armement. Voilà. Enfin, je veux dire... il faut pas, enfin, il faut pas mélanger le soin psychique et la morale. On doit remettre... Enfin, on doit accueillir n'importe qui. Dans n'importe quel état. Donc, simplement, on lui doit, à la personne, de s'intéresser à ce que lui, il veut dire, de ce qu'il vit. Et autant, dans un premier temps, on va avoir la présentation comme ils font d'habitude, avec des phrases toutes faites, des mots valises, des « mais je suis hypersensible » ou bien « mais j'ai de l'anxiété sociale » ou je ne sais pas quoi, bon, on laisse. Et après, on demande « comment vous vivez ?» Et en fait, sur le moment, il y a un moment de déception. Hein, parce que oh bah, c'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'on s'occupe de mon anxiété sociale. Mais non, en fait, on va faire une narration, mais... comme disait tout le temps Houri, au jour le jour, à la nuit, en reprenant Prévert. Hein. C'est le vécu. Enfin, et là, on voit les gens se modifier le visage. Ils arrivent avec une espèce de sténicité ou de fonte comme ça. Et puis tout d'un coup, hop, on voit une vraie sténicité dans le corps quand ils racontent. C'est-à-dire, c'est dans la narration de l'expérience la plus fine que les symptômes cesse. Parce que c'est plus besoin. Et là, on peut travailler. Et là, c'est pas moi qui peux travailler. C'est les gens qui travaillent. En fait, nous, on sert à rien. Hein. On sert à ce que ça puisse tomber. Tout, la prestance, le machin, les histoires, etc. Ça tombe. Il faut arriver que ça tombe. Et c'est eux qui mènent leur vie, leur chemin, leur truc. Et on n'est pas forcément d'accord avec, au bout du compte. Ils ne fondent pas tous une section CGT au Crédit Agricole. Et dommage, mais... enfin, je veux dire, il y a quelque chose... on n'en sait pas plus... Enfin, on en sait moins qu'eux sur les modes d'aliénation sociale et les modes d'aliénation mentale dans lesquels ils se sont pris les pieds. La validation de la cure, c'est d'une vraie cure qui a vraiment travaillé, la personne dans son schéma pulsionnel, dans son habitude de penser le monde, c'est quelqu'un qui s'en va en disant « je ne sais même pas pourquoi je suis venue, parce que ça va et ». Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'a rien implanté. On n'a pas fait une thérapie d'influence. On n'a pas fait une thérapie de soutien. On n'a pas fait de l'étayage. On a donné un endroit de narration de soi sans cinéma. Et c'est pas de la tarte à mettre en place, mais c'est technique.
Il y a des gens qui ne travaillent pas non plus. Qu'on dit qu'ils ne travaillent pas, en fait. Tous les gens qui sont au RSA, qui sont au chômage, etc. Et là-dessus, est-ce qu'il existe des travaux, des recherches, des cellules, je sais pas, des trucs pour aider aussi ces gens-là, parce que au RSA aussi, quand il faut remplir un dossier, quand il faut justifier qu'on est bien malheureux pour avoir 20 balles de tickets alimentaires, est-ce qu'il existe des trucs pour ces gens-là?
Alors, déjà, il existe des statistiques. Hein. Les gens en la plus mauvaise santé, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est les chômeurs. Les chômeurs ont la plus mauvaise santé de tous le monde. Les indicateurs de santé catastrophiques. Alors l'image du chômeur en pleine forme au bord de la piscine, on l'oublie. Et donc ça c'est sûr, tout le monde le sait. Et là, ben, notre gouvernement a décidé donc de faire travailler, puisque c'est le travail, c'est la santé, de faire travailler les RSA et les chômeurs. Donc, pour faire travailler les chômeurs, ils baissent les allocations. Pour le RSA, les allocations chômage sont déjà baissées. Il n'y a pas de raison qu'elles ne baissent pas encore un peu. Et le RSA serait soumis à du travail. Et ce pauvre Castex, qui a toujours le mot pour rire, il s'est trompé. Il a dit qu'ils auraient des travaux d'intérêt général, alors que c'est une peine. Voilà. Et puis après, le lendemain, aux informations, il dit non, mais il s'est trompé, hein, c'est pas. Tant mieux, hein, c'est vrai. Quoi.
J'avais une autre question pour rentrer un tout petit peu plus dans le langage de, je pense, la psychodynamique du travail. Parce qu'on trouvait ça intéressant. Vous parlez souvent de stratégie de défense collective. Donc, par les membres d'une équipe, par des collègues de boulot ensemble, pour faire face à la souffrance. Et du coup, moi, je vous aurais bien demandé de, si vous arrivez à nous préciser un peu ce que vous entendez par... C'est un peu chiant, peut-être.
J'espère que je vais y arriver sans vous endormir. Donc, les stratégies collectives de défense, c'est ce sur quoi on s'aligne comme manière de travailler quand on arrive quelque part. Quand je suis arrivée à l'école d'infirmière, il y avait les cours avec ce qu'on appelait les monitrices à l'époque, avant de les appeler les formateurs, formatrices. Elle disait, voilà, vous allez faire comme ci, vous allez faire comme ça, tatati, tatata, voilà, comment on fait ci, comment on fait ça. Et ça, en ergonomie, on appelle ça le prescrit, la prescription. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et puis, après, on allait en stage. Et là, on faisait, mais rien à voir. Il y avait à la fois le prescrit, c'était donc ce qu'on avait appris au cours, le réel, qui est ce qui se présente, c'est-à-dire le malade, il se laisse pas faire, ou bien il n'est pas comme il faut, ou bien enfin, bon, ça, la situation n'est pas... Et puis, il y a les habitudes du service, les moyens donnés au service. Bon. Et ça, c'est ce qu'on appelle le travail réel. Alors, les stratégies collectives de défense, ça va être la manière de justifier l'écart entre les deux. Justifier ce qu'on est en train de faire, alors même qu'on a dégradé la qualité énormément entre le prescrit et le réel. On a dégradé la qualité, mais en même temps, on est bien obligé, parce que de toute façon, le prescrit, on ne peut pas le faire. Parce que souvent, il y a plusieurs prescrits. On arrive, on doit faire les soins, on doit faire un protocole de soins, mais on doit le faire en étant extrêmement gentil avec tout le monde, ses collègues, voilà, être dans le contact avec les patients, etc., mais en 5 minutes. Et donc, en fait, on ne peut pas. Généralement, le prescrit, on ne peut pas le faire parce qu'il y en a plusieurs. Par exemple, même en usine, la qualité, la productivité et le bénéfice, enfin la rentabilité ne sont pas compatibles, pas tout le temps. Et donc faut trouver des trucs, faut cibler, comme ils disent maintenant qu'ils ont lu tous les trucs d'ergonomie, n'est-ce pas? Ils disent mais c'est parce que vous ne savez pas cibler. Et donc il faut cibler. Donc on ne peut pas faire ce qui est prescrit. On va inventer un travail réel avec l'équipe qu'il y a là, les malades qu'il y a là, et la situation telle qu'elle est, et on va se le justifier collectivement. Et c'est ça une stratégie collective de défense. Et par exemple, on va prendre le travail à Pôle emploi. Tiens. Allez, hier, j'ai emmerdé les enseignants. Aujourd'hui, ça va être les conseillers de Pôle emploi, les pauvres. Et donc, les conseillers de Pôle emploi, ils ont trop de chômeurs. par personne. Et ils n'aiment pas les chômeurs, parce que c'est les chômeurs, c'est comme les demandeurs d'asile, tout ça. Ils n'ont pas des dossiers bien faits. Voilà. Ils savent, ils sont pas à jour, ils n'ont pas téléphoné, ils n'ont pas... Voilà. Et en plus, ce qui est intéressant quand même avec les chômeurs, c'est que si vous arrivez à les radier, il y a des contreparties intéressantes. Donc, vous êtes obligé d'embaucher des gens qui sont bons à rien. La preuve, ils étaient chômeurs une heure avant. Et après, vous les embauchez à Pôle emploi pour faire l'accueil. Ils ne comprennent rien à rien. Ils disent « Ah ben non, mais retournez chez vous si vous n'avez pas votre carte d'identité. » Puis l'autre, il retourne chez lui. Puis en fait, ce n'était pas la peine. Et enfin bon, c'est comme ça tout le temps. Et donc, ils sont bien embêtés à Pôle emploi. Ils ont toujours été bien embêtés. Et c'est pas demain la veille qu'ils vont être autrement. Eh bien, les trois quarts d'entre eux, pas tous, les trois quarts d'entre eux vont se débrouiller avec « Ouais, mais bon, les chômeurs, il y en a vraiment, ils foutent rien. » Et alors, on va avoir des phrases comme ça. Et on va se trouver avec les chômeurs qui deviennent les ennemis des conseillers de Pôle emploi. Les patients qui vont devenir les ennemis des infirmiers en psychiatrie. Les élèves, par exemple, bon, je ne peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Les profs, ils vont dire, nous, on sait enseigner, mais pas à ces élèves-là. Il faudrait leur changer les élèves, parce qu'ils savent bien enseigner, ce n'est pas la question, ils aiment ça, ils savent enseigner, mais pas à ces élèves-là. Et pareil pour Pôle emploi. Ils voudraient bien des gens qui veulent s'en sortir. Et ça. Eh ben non, ils ne sont pas à la hauteur des employés de Pôle emploi. Et de la même manière, les patients, on avait été appelés avec Anne Flottet justement dans un service de psychiatrie où ils voulaient que des gens du laboratoire de Christophe Dujour parce que sinon ils ne pourraient pas continuer à travailler. Et donc on y était allé avec Anne et ils nous disent voilà, parce que nous ce qu'on a c'est qu'on a des malades, c'est pas les bons. Et on a un service de subaigus, on est ouvert à tout ce qu'il faut pour des subaigus, ils nous envoient des aigus. Allez, merde. Alors, et qu'est-ce que c'est que des subaigus? Ils ne savaient pas, mais en tout cas, ce n'était pas cela, parce que voilà. Bon. Donc, c'est ça, une stratégie collective de défense. C'est essayer de rationaliser le fait, soit qu'on n'y arrive pas, soit que. Voilà.
C'est moyennement d'actualité, parce que ça fait un moment que j'essayais de choper le micro, puis je n'osais pas. Enfin, bref. Mais. Ça clôturera du coup peut-être un peu cette affaire là, mais quand vous parlez un peu de péjoration du public et que du coup il y a des équipes qui, c'est ça, vont tourner en dérision, enfin bon, on fait comme, font tout ce que vous venez de dire là pour amortir le choc du taf, j'ai l'impression que ça sort pas de nulle part et en fait ça me permet de rebondir sur ce que vous racontiez tout à l'heure là sur le RSA qui va être d'autant plus conditionné là si Macron est de nouveau élu. Parce qu'en fait, cette affaire-là, ça s'appelle l'activation des politiques sociales. Donc ça, c'est pareil, ça, c'est pas une invention de Macron. Hein. Ça fait 25 ans que c'est pensé par les penseurs du néolibéralisme, on va les appeler comme ça, et que ça se met peu à peu en place. Et qu'en fait, là, il y a quand même une transformation profonde des rôles en société, c'est-à-dire qu'on a un État social qui est construit depuis 200 ans sur un truc de la société doit quelque chose aux plus vulnérables, en fait. Et là, c'est l'inverse. Du coup, c'est les plus vulnérables qui doivent quelque chose à la société et qui doivent prouver le fait que, bah oui, pour toucher 400 balles par mois, eh ben, il faut qu'on soit bien sous tout rapport et il faut qu'on colle à ces normes et au travail, c'est la santé, comme vous l'avez si bien dit là depuis deux heures. Du coup, en fait, moi, j'avais envie un peu de retourner la parole aux organisateurs de cette soirée qui... Je travaille donc dans le médico-social, je peux me mettre dedans, je travaille dans le social, si on le dit largement. Parce qu'en fait, derrière des décisions politiques comme ça, et derrière des trucs qui, en fait, rentrent dans les mentalités, finalement, je trouve que ça témoigne de la considération qu'on a pour les personnes vulnérables, on va faire un truc très large, et la considération qu'on a aussi pour les travailleurs qui bossent avec ces dites personnes vulnérables, et du coup, avec des conditions de travail qui sont toutes claquées, quoi, enfin... Il faut quand même, bon, ça c'est un avis personnel, mais il faut quand même vraiment le tenir de ces métiers-là, de la relation, de l'accompagnement, d'accompagner des précaires. Et je sais pas, en fait, là, il y a un... Enfin, dans ma tête, moi, j'ai fait des liens avec tout ça. Et j'avais envie de vous le partager parce que vous en avez fait aussi largement. Vous avez dressé un tableau là, de la société et de là où on en est. Et du coup, ben ouais, on peut partager un élan optimiste, comme vous le disiez. Il y a plein de trucs à inventer, il y a plein de scopes, il y a plein de manières de travail. Enfin, et en même temps, ben, il y a des jours où moi, je suis pas hyper optimiste et je rejoindrais le gag là qui disait, ben ouais, ouais, nous, du haut de notre trentaine, en fait, on n'est pas inondé de tout. Enfin, la pensée, elle est égale à zéro dans le social, en fait, faut le dire. Et que si on veut avoir le temps de penser au taf, ben, on le fait sur notre temps libre, en buvant des bières au bar ou en organisant sur notre temps libre. Vos devenus, et c'était super, merci aux camarades qui l'ont fait, mais je sais pas comment dire, en fait, des fois, moi, j'ai l'impression qu'on est aussi dans une impasse, et qui nous, enfin, comment conclure mon propos, qui, du coup, nous détournerait peut-être d'une action un peu forte et offensive qu'il faudrait penser, quoi, à un moment, enfin, vous avez dit tout à l'heure, ah, bah, il y a 20 ans, on s'est fait avoir, on n'a pas fait la révolution, quel dommage, et ben, des fois, moi, j'ai pas le sentiment de psychologiser mes galères dans mon rapport au taf. Mais en fait, des fois, j'ai l'impression de perdre du temps à passer du temps pour comprendre ma place dans ce marché du travail tout claqué, quoi. Je sais pas trop comment dire ça. Je sais pas si ça rebondit pour les personnes qui ont organisé. Enfin, vous, ben, on vous a pas entendu parler de vos conditions de travail, mais c'est pas pour rien que vous avez invité madame et qu'on a eu ces échanges.
Ça tombera pas tout cuit, hein. Ça tombera pas tout cuit.
Moi, je te réponds en un mot, mais bref. Je suis pas sûr, tu vois, sur l'espèce d'inertie intellectuelle ou politique que tu dénonces dans nos corps de métier. Moi, je pense qu'on est beaucoup à être enlisé dans des boulots où on n'a plus le temps, plus les espaces pour papoter de travail, mais que justement, on est je sais pas combien, quels que soient les corps de métier et quels que soient les groupes sociaux, et a fortiori dans les milieux que je fréquente maintenant et où je bosse maintenant, la santé, le social, etc., à l'extérieur du boulot, à être vachement heureux à se trouver. Et à se reconnaître comme quoi la situation ne nous convient pas franchement. Je pense que tant qu'on a moyen de faire semblant, ça passe encore, ça se rebelle qu'à moitié, ou on sort faire une petite manif tous les 6 mois, etc. Mais moi, je serais pas forcément si surpris que ça le jour où ça va vraiment claquer, dans le sens où même les moyens de faire semblant, ils sont de moins en moins là. C'est de moins en moins possible de faire semblant tout bêtement, de vaguement sauver le boulot. Et des gens chouettes, on croise aussi des tas, sauf que le ciment et le lien, il ne veut pas se faire sur des dynamiques de soit inventives, soit de lutte, quel que soit le pendant qu'on veut y trouver, quoi. Je ne suis pas pessimiste, en tout cas, sur l'état des relations et des gamberges que je trouve, moi, dans le corps de métier où j'évolue maintenant. Mais la situation structurelle, elle est merdique, mais pas forcément les convictions des gens, ce qu'ils essayent d'en saisir, etc. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai.
Je suis plus pessimiste. Je trouve que pour travailler un peu dans plusieurs structures, dans différentes structures, je trouve que la majorité, quand même, ont très peu de place pour penser et que les professionnels enfin, le font pas non plus. voilà. Il y a des choses qui se perdent un peu peut-être avant, d'une certaine pratique ou clinique. Je trouve qu'il y a très peu de temps et consacré à ça, et que du coup ça s'enlise comme ça, ça se perd tout seul. Je suis plus pessimiste.
Alors peut-être pour rebondir sur quelque chose de plus positif, après avoir eu des conditions de travail merdiques et avoir décidé de quitter la fonction publique hospitalière après l'injonction du vaccin pour les soignants, et ne plus pouvoir parler du travail au travail pour penser le travail, j'ai trouvé d'autres endroits et d'autres copains, d'autres camarades pour pouvoir aussi parler de ça. Et je me dis que le positif, il est peut-être pas dans le travail. En tout cas, les espaces qu'on recherche pour parler du travail sont peut-être plus au travail, quoi. Et qu'on nous donne pas l'autorisation de le faire là-bas, mais on va le prendre ailleurs, quoi. Bon, alors est-ce qu'on peut conclure ? Merci beaucoup, Lise. Merci à vous tous qui êtes venus au Mieux Ménage, à Radio Dio. Aux camarades qui sont là autour de la table, et puis bonne fin de soirée à vous. Merci.